Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et ce soir en prime time, dès 20h45, donc sur France 3, Franck Ferrand nous propose une édition spéciale de L'ombre d'un doute consacrée au Louvre. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Nous sommes en train de mettre les petits plats dans les grands.
Et oui.
En effet, ce soir, nous allons vous montrer le Louvre et les Tuileries comme vous ne les avez jamais vus, non pas sous l'angle du musée. C'est certain que le Louvre est le plus grand et sans doute le plus beau musée du monde. Mais nous allons étudier ces lieux sous l'angle du palais, cette immense résidence royale et impériale qui, en plein cœur de Paris, a vu s'écrire quelques-unes des pages les plus fortes de notre histoire. J'espère que vous serez donc au rendez-vous. C'est dès ce soir à 20h45.
Sur France 3. Alors sur Europe 1, c'est le livre d'Émeric Caron, Nostec, qui vous a valu le sujet de notre rendez-vous d'aujourd'hui au cœur de l'histoire.
Mais oui, cet ouvrage nous offre un point de vue végétarien sur les mœurs alimentaires d'aujourd'hui. Mais ce sont surtout celles d'hier et d'avant-hier qui vont nous intéresser, bien entendu. Et pour revenir aux origines des pratiques humaines carnivores, j'ai invité une préhistorienne, Marilène Patou-Matis, du département préhistoire du Muséum National d'Histoire Naturelle. Elle a publié il y a 3 ans un ouvrage intitulé « Mangeurs de viande, de la préhistoire à nos jours ». C'est édité chez Perrin.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Tant que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront, peut-on lire dans les vers d'or du grand Pythagore. Celui qui sème les graines du meurtre et de la douleur ne peut pas récolter la joie ni l'amour. Et le premier des philosophes antiques disait aussi, je cite, « Quiconque tranche avec un couteau la gorge d'un bœuf et reste sourd au meuglement d'effroi, quiconque est capable d'abattre de sang-froid le chevreau hurlant et mange l'oiseau qu'il a lui-même nourri, est-il encore très éloigné du crime ?» Ces grandes interrogations, sans cesse réitérées au fil des siècles et jusqu'à Paul Valéry notamment, sont au cœur de notre émission d'aujourd'hui. Je vous le dis d'entrée de jeu, en tant que fils, petit-fils, arrière-petit-fils de boucher, et cela depuis au moins 7 générations, j'ai toujours été très sensible à cette question des bêtes que l'on tue pour se nourrir, à la place de la viande dans notre alimentation et à l'histoire des pratiques liées à la consommation d'animaux. Cela met en jeu de profondes questions qui touchent à quelques-unes des pratiques les plus importantes des civilisations passées et présentes, le sacrifice rituel, l'élevage, l'abattage professionnel, et avant cela bien sûr longtemps domestique, le découpage, la préparation, le stockage, la distribution des viandes, leurs différents types de consommation, mais aussi la chasse, évidemment, et la pêche et le braconnage, mais aussi les interdits alimentaires, qu'ils soient d'origine religieuse ou purement culturelle. Allez donc demander aux Anglais ce qu'ils pensent des escargots et des cuisses de grenouille, pour ne rien dire des spectacles comportant la mort d'animaux, le plus célèbre étant bien sûr la corrida. Et dès qu'on prononce ce nom, je sais déjà, ce mot, je sais déjà qu'on va avoir quelques messages au standard. Tout cela est au cœur de l'histoire, si j'ose dire,
oui,
est au centre de notre émission d'aujourd'hui. Avec en contrepartie l'histoire non moins passionnante, quoique beaucoup plus confidentielle, de tous ceux, souvent des sages, des philosophes, des artistes, des maîtres à penser, sans doute en avance sur leur temps, qui se sont démarqués de toutes ces pratiques, qui les ont dénoncées, voire dans certains cas condamnées, jusqu'à faire du végétarisme un véritable choix de vie. Il y a quelques années, je visitais à Limoges la passionnante rue de la Boucherie, vous savez, avec ses maisons à colombages, dont les rez-de-chaussée sont encore occupé par d'anciens étals de bouchers. On y visite, c'est au numéro 36 de la rue, j'ai vérifié ce matin, la maison traditionnelle de la boucherie, où l'on comprend comment vivaient les bouchers d'autrefois qui abattaient le bétail dans leur propre cour, comment se situait dans l'ancienne société cette catégorie à la fois prospère et un peu reléguée aux marges du fait de son lien si étroit avec le sang et la mort. Saint Aurélien de Limoges, le patron des bouchers limousins, est aujourd'hui encore l'objet d'un culte de la part de la corporation locale. On le célèbre le 10 mai. Ce qui est certain, c'est que les abattoirs modernes, plus ou moins aseptisés et cachés plus ou moins à la périphérie des villes, ces abattoirs ont fait sortir de nos vies quotidiennes et de nos consciences les cris des animaux sacrifiés à nos appétits carnivores, les ruisseaux de sang, les linges rougis, les remugles et même les mouches. Certains consomment le poulet sous forme de lamelles sous vide, le poisson en rectangle pané, le bœuf en portions reconstituées de viande hachée. Caché ce sang que je ne saurais voir, mais que je continue de manger, non sans conséquences parfois douloureuses, nous dit Émeric Caron. Avant d'interroger ainsi nos consciences, je crois qu'il est nécessaire de remonter aux origines, si vous voulez, à nos ancêtres de la préhistoire et au rapport qu'eux-mêmes entretenaient avec la viande.
Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, faut que les gros puissent se goinfrer, faut que les petits puissent engraisser. Faut que ça saigne, faut que les mandataires au hall puissent s'enfourrer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent paner, que les têtes aillent mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbac pour être bien gras quand on claque et nourrir des vers comac. Faut que ça saigne bien fort, c'est le tango.
Les joyeux bouchers Borésian sur Europe 1. Oui, car de carnivores et de végétariens aussi, il en est question dans un court instant. Restez à l'écoute de votre radio.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre première invitée, Franck, sur Europe 1, Marilène Patou-Matis, elle est préhistorienne et auteure notamment de Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours, disponible chez Perrin.
Bonjour Marilène Patou-Matis, merci beaucoup de venir nous éclairer sur un sujet qui remonte alors à l'aube même de l'humanité. Vous nous dites que les Australopithèques, c'est-à-dire nos ancêtres qui étaient encore pas tout à fait des hommes, c'est l'époque, c'est Lucie, eux étaient des végétariens, mais des herbivores, en quelque sorte. Ils mangeaient éventuellement des petits insectes, simplement.
Voilà. Oui, bonjour. Oui, en fin de compte, les Australopithèques les plus anciens, dont Lucie, que tout le monde connaît, c'est-à-dire vers 5-6 millions d'années, hein, il y a très longtemps. Était plutôt frugivores.
Voilà.
Et il est clair que les analyses maintenant qu'on peut faire sont extrêmement sophistiquées et nous mettent quand même en évidence que très tôt, avec notamment ce qu'on a appelé les Australopithèques graciles, ceux qui vont être à l'origine de notre lignée, hein, nous les humains modernes, étaient déjà consommateurs de protéines animales, je fais la différence, et en mangeant des insectes, un petit peu comme font les chimpanzés d'ailleurs, qui de temps en temps bien sûr mangent des insectes, mais aussi des petits colombes, des petits singes. Donc déjà, à l'origine, c'est quand même un petit peu omnivore, ça débute.
Oui. Et puis, alors, c'est avec l'Homo habilis, donc le premier homme qu'on peut ainsi nommer, que alors là, commence cette... On commence à manger des petits mammifères, on commence là, vraiment ça devient...
Oui, tout à fait, c'est-à-dire que nous, dans les sites archéologiques, nous on travaille sur donc en faisant des fouilles, sur le matériel qu'on découvre lors de ces fouilles, et qu'est-ce qu'on trouve? Pourquoi on dit ça? Ben parce qu'à un moment donné de notre histoire, l'histoire des hominidés, on voit que dans les sites apparaît, et notamment avec Homo habilis, des premiers ossements de petits animaux, des petites antilopes, etc. Mais aussi, et c'est ça qui est très important, c'est-à-dire que nous sommes, contrairement aux carnivores, nous n'avons pas de griffes, nous n'avons pas de dents, et donc pour la viande, il nous faut un outil. Il faut quelque chose qui nous aide à découper cette viande. Même avant de la tuer, même si on récupère sur une carcasse une charogne tuée par un autre animal, il faut vraiment les outils. Et on voit les deux apparaître en même temps. C'est ça qui est très intéressant.
Même si on récupère, parce que avant de chasser l'animal, on se contentait de ramasser les animaux morts. Alors, pas quand même les charognes, j'imagine.
Non, je ne serais pas là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, au départ, probablement, on a des traces vraiment où ces premiers hominidés, les Homo habilis, découpaient donc des carcasses d'hippopotames, ou d'éléphants qui étaient morts, tués soit par un autre prédateur, comme les lions, soit morts d'une mort naturelle, entre guillemets. Et donc, ils ont découpé ces carcasses. Mais je vous dis, ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est l'association des deux. Et là, c'est un petit peu l'œuf et la poule. C'est-à-dire qu'en fin de compte, est-ce que c'est le fait d'avoir mangé de la viande donc qui a fait que le cerveau, d'un seul coup, grand consommateur d'énergie, a grossi et a permis de tailler les outils? Ou est-ce que c'est en fin de compte peut-être le hasard de ramasser des pierres, des galets, de faire des tranchants, c'est-à-dire de taper l'un sur l'autre pour faire quelque chose qui coupe, qui a été utilisé et après perfectionné, qui a en fin de compte développé le cerveau?
Et si c'était les deux, si je puis dire,
je
avec mon esprit synchroniste?
Tout à fait.
Alors en tout cas, ce qui est très frappant dans ce que vous nous dites, c'est qu'il semblerait que l'apport carné est-tu un rôle important dans ce qu'on appelle le processus d'hominisation et dans notamment le développement du cerveau? C'est scientifique, ça?
C'est-à-dire qu'on voit une corrélation. C'est-à-dire que nous, si vous voulez, on observe, on prend notre matériel, on voit ce qui se passe. Et c'est vrai qu'on a une corrélation, on a quelque chose qui est semblable. On a en même temps le développement des outils, des armes, plus tard, et vraiment les sites qui sont de plus en plus riches en ossements d'animaux, qui présentent des traces humaines de découpe, et en même temps l'augmentation du cerveau. Donc forcément, il y a une corrélation. Et je crois que ce qui est très intéressant de voir, c'est que la nécessité de tailler ces outils, ces armes, de réfléchir à des stratégies pour être plus rapide que les hyènes, etc., d'arriver sur les carcasses.
On est chez les chasseurs.
Ou même au départ avec les charognards, il faut quand même aussi qu'ils passent. Donc il faut être en groupe, etc. Donc tout ça...
Ça organise.
Exactement. C'est-à-dire que je crois qu'il ne faut pas voir qu'une chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a mangé de la viande que d'un seul coup on est devenu plus intelligent.
C'est
un ensemble de choses. Pour se la procurer, il faut développer d'autres savoirs et savoir-faire. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va se développer. On voit justement avec, si on monte dans le temps, avec les premiers chasseurs de grands mammifères, on va avoir les Homo erectus qu'on appelle. Et donc là, on va avoir là aussi se développer de plus en plus des outils, des armes différentes. On va voir que les campements commencent à se spécialiser, à se organisé. Donc tout ça est lié.
J'étais l'autre soir chez Claude Douce, vous savez, dans le Périgord.
Ah, je connais très bien, j'ai pas pu y aller malheureusement, j'étais un ami, je le salue.
Merveilleuse collection d'objets préhistoriques.
Tout à fait.
Ce que nous disions avec les personnes qui visitaient cette incroyable exposition, c'est qu'en fait, les armes de chasse naissent longtemps, longtemps avant les armes de guerre, et qu'il semblerait que l'animosité intra-humaine, hein, le fait de se tuer entre humains, ne naissent que bien plus tard avec la sédentarisation, avec les balbutiements du néolithique, c'est-à-dire à partir du moment où tout simplement on a des terres et des propriétés.
Tout à fait. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites, parce que je suis en train de travailler sur mon prochain livre qui est L'origine de la guerre et de la violence, donc toujours en partant de mes vieux fossiles. Et c'est vrai que c'est, en fin de compte, au départ, il y a quasiment pas de traces de guerre. C'est vraiment, il y a un développement de la chasse. Et des armes, mais en fin de compte, c'est très tardif. Vraiment, les vraies armes de chasse sont même assez tardives dans notre histoire. C'est surtout avec Cro-Magnon, un petit peu avec les Néandertaliens, avec les premières armes de jet, les lances, mais c'est surtout avec Cro-Magnon. Et donc, c'est ça qui est intéressant de voir, c'est que pendant toutes ces périodes, moi qui travaille beaucoup sur Néandertal, pendant 300 000 ans, il y a un développement très important des stratégies de chasse, etc., et très peu de l'armement, c'est-à-dire qu'ils sont obligés pour compenser, si j'ose dire, un armement relativement rudimentaire, d'avoir des stratégies, on le voit, et ils utilisent notamment l'environnement, ils ont une maîtrise totale de leur environnement.
Tout ça amène l'homme à établir un certain type de rapport avec l'animal, c'est ce que nous allons voir ensemble dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et deux grandes questions aujourd'hui sur Europe 1. Franck, l'homme a-t-il toujours été carnivore et quelle est la place des végétariens dans l'histoire?
Eh oui, en compagnie de Marilène Patou-Matisse, qui est spécialiste de la préhistoire. Elle est l'auteur de Mangeurs de viande de la préhistoire à nos jours. C'est édité chez Perrin avec en couverture un formidable portrait carnassier d'Archimboldo. Absolument extraordinaire. Alors Marilène Patou-Matisse, je disais à l'instant que cette consommation de viande va amener les êtres humains à un rapport différent avec l'animal. L'autre jour, nous avons consacré une émission aux peintures rupestres, vous savez, à l'art des cavernes, oui. Avec cette découverte tout à fait extraordinaire partout, qui vient d'être faite. Bon. Et on se disait que l'animal devient en quelque sorte totémique, devient une sorte d'emblème et peut-être un emblème de tribu, par exemple. Est-ce que c'est lié à la chasse? Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Vous allez me dire oui, j'imagine.
Oui, non, mais ce qui est très important de voir, c'est qu'avec les Néandertaliens et les Cro-Magnons, les premiers hommes modernes, on a vraiment là une alimentation qui est très très carnée.
C'est-à-dire quelle proportion?
Certains, en tout cas, individus consommaient une viande à peu près comme les loups. C'est-à-dire que l'alimentation est extrêmement carnée. Ce qui n'empêche pas, évidemment, d'avoir...
Quoi, 90%?
Ah oui, 90%. Ce qui n'empêche pas d'avoir une alimentation, on l'a montré là aussi, avec des céréales sauvages et complémentaires. C'est-à-dire que l'un n'exclut pas l'autre. Mais en tout cas, très carnée. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à ces périodes-là, les hommes sont des prédateurs, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent de ce qu'il y a dans la nature. Ils se nourrissent, ils s'habillent, ils vont pas tout nus, ça c'est aussi des légendes.
Ça fait partie aussi.
Ils s'habillent. Et donc oui, parce que l'animal est très important pour eux. Il est un ensemble de biens, c'est-à-dire qu'à la fois pour se nourrir, mais aussi
pour se vêtir, pour se chauffer,
et tout. Ils ont besoin de l'animal. Et c'est pour ça que moi je pense que très très tôt, la relation à l'animal a été plutôt une relation, si vous voulez, de vision en tant que ressource bien bienfaitrice. C'est-à-dire que l'animal, c'est pour ça que je pense que, connaissant bien les chasseurs-cueilleurs, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais subactuels, il y a toujours des rites de chasse. Il y a toujours des, on ne tue pas, d'abord, on ne fait pas de massacre d'animaux. Ça n'existe pas au paléolithique. Il n'y a pas de massacre. Il y a très tôt, je pense, il y a dû y avoir des rituels. Ce qui est confirmé, d'ailleurs, par certains éléments qu'on trouve, nous, dans les sites archéologiques, ou qui nous montrent que tous les animaux n'avaient pas le même statut. C'est-à-dire qu'il y avait des animaux qui étaient plutôt utilisés pour la nourriture, les vêtements, etc. Et d'autres entraient dans le milieu symbolique, notamment à travers la parure. Donc ça, c'est intéressant. Les renards, par exemple, vulgaires, les renards roux, comme on a maintenant, ils étaient chassés pour leur fourrure, mais dans un même site, comme à l'Abri Pateau, là, il y avait des renards aussi polaires, et eux, c'est simplement leurs dents à eux qui étaient mis en collier, qui étaient portés. Donc, ils rentrent dans le domaine symbolique.
Ils étaient plus rares, donc plus prestigieux, déjà.
Et puis aussi parce qu'ils changent de couleur. Je pense que la fourrure change. Et il y a aussi autre chose importante, c'est que l'animal, tout de suite, rentre aussi dans la sphère symbolique par le biais, si j'ose dire, du funéraire. C'est-à-dire qu'on va mettre dans les sépultures, on va mettre avec les hommes ou les femmes, on va mettre des morceaux d'animaux, on va mettre des bois de rennes, etc. Donc, ils rentrent tout de suite, très tôt, et bien entendu, après, dans l'art, ça, c'est sûr.
Avec, puisque vous parlez de ritualisation et de développement d'une forme, déjà, de société, avec une grande différence entre hommes et femmes, puisque ceux qui tuent, ceux qui vont à la chasse, ce sont les hommes.
Alors ça, je vais un petit peu aller à contre-courant de ça. C'est-à-dire que là, on se base essentiellement, pour dire ça, sur les chasseurs-cueilleurs subactuels. Mais les chasseurs-cueilleurs subactuels, c'est-à-dire les Bushmen du Kalahari, les aborigènes d'Australie, etc., ils ont toute une histoire. Donc il faut faire très attention à ça. Ce ne sont pas des hommes préhistoriques figés dans le temps. Et donc moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est une extrapolation. Je pense qu'il n'y a pas de raison, il n'y a aucune preuve archéologique qui montre que c'est différenciation sexuelle de tâches, c'est-à-dire les femmes à la cueillette, les hommes à la chasse, ça, on peut pas le dire du tout. Voire même, on voit certains développements au niveau de la musculature et tout, chez les femmes néandertaliennes, étaient aussi développés que chez les hommes, et notamment un des deux bras. Donc ça veut dire qu'elles lançaient aussi. Donc je crois qu'il faut être très prudent sur ça.
Ce sont des éléments culturels postérieurs.
Je pense que c'est postérieur, voilà, et que c'est lié à des choses beaucoup plus complexes, comme l'avait montré très très bien à l'intestin, sur le tabou du sang, etc. Mais je crois que ça, c'est tardif. Il faut se méfier, parce que là, c'est toujours cette représentation.
Et le comment, tabou du sang menstruel, en
voilà, exactement. Et je pense qu'il faut se méfier. Vous savez, en préhistoire, on a des fois, on remet, ça vient beaucoup du 19e siècle, des clichés. Donc les femmes à la cueillette, par exemple, si on fait un tailleur, on reprend du tailleur la préhistoire, c'est toujours un homme. Mais pourquoi ? Alors qu'actuellement, moi j'ai des collègues qui taillent extrêmement bien les outils. Et le peintre de Lascaux, pourquoi ce sont toujours des hommes qui personne n'était là pour le vérifier.
C'est notre civilisation occidentale.
Et je pense que pour la chasse, c'était un peu peut-être, à mon avis, peut-être moins différencié qu'on ne le dit actuellement.
Vous parliez d'un tabou, il y en a un peut-être plus important encore, tellement fondateur, c'est celui de la viande animale ou de la viande humaine. Le cannibalisme a toujours existé ?
Tout à fait. Et je pense qu'il existe toujours, il est en expansion au niveau géographique et dans le temps également. C'est-à-dire qu'il est très, il apparaît très tôt et en fin de compte, il se poursuit encore aujourd'hui. Et je pense que là, il y a un rapport qui est là aussi assez intéressant parce que dans le cannibalisme, il faut faire attention aussi, hein, c'est très complexe. Hein, c'est rarement manger de la viande. C'est des fois beaucoup
encore
même, dans le funéraire.
Une part de rituel,
voilà.
Encore.
Une part de rituel très importante, donc ça serait, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, écrit des articles, mais je crois que ça c'est assez complexe. Mais ce qui est important de voir, c'est que ce rapport à l'animal est quand même très tôt. Je pense que, comme ça a été dit et redit, je crois que c'est important, l'homme très tôt dans notre histoire a été bon à manger, mais aussi bon à penser. Oui. Et je crois que cette relation à l'animal a été très, très ancienne, c'est pour ça qu'actuellement, il y a ces problèmes, si j'ose dire, Exactement. Parce que je crois que c'est là aussi les massacres, le côté de tuer l'animal comme ça pour s'amuser, pour le côté sportif uniquement. C'est quand même là aussi relativement tardif dans notre histoire. Je crois qu'il y a ce rapport à l'animal est très profond.
Si vous voulez, à travers Plutarque notamment, on va venir sur le rapport à l'animal qu'on tue pour se nourrir, à une sorte d'osmose avec la nature et avec l'animal, à la façon de demander pardon. En quelque sorte pour se nourrir. Et puis on va venir aussi à l'élevage qui peu à peu va remplacer la chasse et qui dit élevage dit très souvent abattage, évidemment.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Je suis carnivore. Je n'ai vraiment rien pour rien contre les végétariens, mais les vaillants sont plus beaux avec du gigot. rien contre les alcoolos, surtout s'ils marchent au bordeaux. Rien n'est plus d'image, je me propose, marche en bas.
Ne touchez à rien, vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1. Il s'agit des garçons bouchés avec carnivores, Franck.
Eh oui, alors justement, nous étions avec Marilène Patou-Matisse dans cette histoire, dans cette préhistoire des carnivores. Émeric Caron nous a rejoint. Bonjour Émeric, merci d'être ici pour nous parler. On va venir avec vous au phénomène des végétariens, du végétarisme. Mais avant cela, j'aimerais qu'on évoque deux ou trois aspects, j'ai envie de dire, qui font le lien entre les deux. D'abord, une question assez essentielle avec l'élevage, c'est la question des rituels. C'est-à-dire que les animaux qu'on élève pour les manger, comment sont-ils abattus? Je me rappelle avoir vu il y a quelques années un film qui s'appelait Ourga, où on voyait l'abattage. Alors c'était filmé, c'était très long, une scène absolument extraordinaire, où l'on voyait une espèce de scène où le boucher, si je puis dire, enfin en l'occurrence l'homme de la steppe, le sacrificateur, tuait un mouton, mais le tuait avec une sorte d'amour, d'empathie assez extraordinaire, comme s'il, alors précisément, lui demandait pardon de le tuer. Ce sont des rites qui ont existé dans la proto-histoire.
Oui, dans la proto-histoire, puis même chez beaucoup de peuple chasseur-cueilleur subactuel. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait pas cette notion, comme on le disait tout à l'heure, de massacre ou d'abattage massif. C'était toujours avec un respect. Il y avait un rituel avant de le tuer, pendant et après. Parce que l'animal, le rapport à l'animal était totalement différent de celui qui existe aujourd'hui entre eux et nous. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, pour eux, c'était très important dans leur vie quotidienne et aussi dans leur vie, dans leur pensée, dans tout leur cosmogonie. Et donc je crois qu'il y a quelque chose là d'une relation qui est totalement différente, avec notamment ce qui va venir avec l'élevage. Donc à partir à peu près de 12 000 ans à 10 000 ans, il va y avoir la domestication des plantes et bien sûr après des animaux. Et là on a quelque chose qui va changer, parce que l'animal, d'abord, déjà on est sédentaire, il est devant nous, on voit ce qui se passe, donc ça va là aussi introduire un rapport qui va être différent. Il y a moins de mystère, on le connaît plus, on peut manipuler, c'est-à-dire qu'on va faire des croisements, etc. Donc là, l'animal va déjà entrer dans autre chose. Et ce qui est important de voir aussi, c'est que il y a le côté, si vous voulez, un petit peu tout le côté mystérieux, tout le côté de ce qu'on peut voir dans les religions chamaniques, totémiques, etc. du rapport à l'animal va complètement, enfin pas disparaître, mais un peu s'effacer. Et contrairement à l'art paléolithique, où on a essentiellement des animaux et un petit peu d'hommes représentés, là, l'animal va un petit peu s'effacer devant d'autres représentations, notamment des scènes, des grandes scènes de chasse, de guerre, etc. Et là, on voit qu'il y a un basculement, il y a un changement.
Au fil du temps, écrivez-vous, le comportement humain a changé, notamment sous l'influence des religions. Dès que l'homme s'est pensé supérieur, les animaux ont été relégués au second plan. Le monde est plein de merveilles, mais rien n'est plus merveilleux que l'homme, a écrit Sophocle. C'est le prologue d'Antigone. Le christianisme, à la différence du bouddhisme qui se fonde sur l'échange des corps et des âmes au sein du règne vivant, donc la métempsychose, la réincarnation, établit une stricte distinction entre l'âme divine et le corps animal. Cependant, au Moyen-Âge en Occident, malgré le christianisme dominant, l'animisme est l'idée selon laquelle la nature renfermerait des forces mystérieuses et des qualités occultes sont encore très présentes. Et ça, jusqu'à une époque, on peut dire même relativement moderne.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'il reste quand même dans notre univers, enfin l'univers à cette époque-là, il reste quand même du sauvage. Il reste quand même les animaux sauvages. Et là, on voit très bien que le rapport est aussi tout à fait différent. Et il va être aussi le droit de chasse, par exemple, va être quelque chose de très très fort, parce que tout de suite, il va faire des castes, des hiérarchies. Tout le monde ne peut plus aller à la chasse. Avant, vous étiez chasseur-cueilleur, et même quand proto-histoire, vous pouviez chasser. Mais après, ça va être un interdit. Donc là, d'un seul coup, on va y avoir une séparation, donc par ce droit ou non de chasse. Et ça va être très fort. Après, vous êtes braconnier, sinon,
droit
et vous
risquez
la mort.
Superpose d'ailleurs au droit de guerre ou non. Hein, c'est les belles latoresses. Hein,
voilà. Et puis, en plus, vous savez, le seigneur est monté sur son cheval, il domine le paysan qui est courbé sur son arrière. Je veux dire, il y a déjà tout ça qui rentre.
Il y a une notion de noblesse qui s'appelle. s'attache peu à peu, à la notion
peu
de chasse.
Bien sûr, et puis aussi, surtout quand on lit Gaston Phébus, par exemple, on voit très bien qu'il y a des chasses qui sont extrêmement dures. C'est-à-dire que là, ce n'est pas les chasses maintenant avec des fusils à lunettes. C'était la chasse au corps à corps.
Au pieu.
On y va, au pieu et tout. Il faut finir l'animal à la dague. Donc il y a beaucoup d'accidents de chasse, il y a beaucoup de morts, même, qui a été blessé. Et donc, c'est un autre rapport. Et on est dans autre chose, et qui va devenir de plus en plus sophistiqué avec les chasses à cours. Je pense que là, on a un basculement avec une autre vision. Et là, l'animal, à ce moment-là, n'est plus perçu en tant qu'individu, qu'un semblable, qu'un frère, mais là, plutôt utilitaire. C'est-à-dire que ça va valoriser l'homme. C'est-à-dire que là, il y a d'un seul coup une infériorisation des animaux qui va être d'ailleurs mis dans les classifications notamment du 17e et du 18e siècle, dans les classifications où les animaux vont être classés sur une espèce d'échelle des êtres vivants, du plus d'inférieur au supérieur.
Et
tout en haut, il y a l'homme. Mais après, on fera pire, puisqu'on va même hiérarchiser les êtres humains. Et là, je pense que c'est vraiment un changement radical de pensée.
Un de nos auditeurs me fait remarquer que l'homme n'a jamais été uniquement carnivore, c'est un omnivore depuis toujours, vous l'avez dit, d'ailleurs.
Tout à fait.
Il y a toujours eu ces aliments complémentaires.
Bien sûr,
commencé, Aymeric Caron, cette émission par Pythagore, qui est un des premiers. Pythagore, à l'origine d'un très grand nombre de courants de pensée extrêmement importants et influents, peut-être un peu à l'origine de notre pensée occidentale, si l'on peut dire, en allant très vite tout de même. Ce Pythagore, lui, s'oppose clairement à la nourriture animale, en fait. Il dit que tant qu'on mangera de la viande, les choses iront mal. Vous lui consacrez un chapitre entier, du reste.
Oui, j'en parle un peu, parce que comme vous venez de le dire fort justement, c'est vrai qu'il a tellement marqué nos esprits. Tous les collégiens, d'ailleurs, connaissent très bien Pythagore.
On est au 6e siècle avant notre ère.
Absolument.
C'est ce qu'on appelle un philosophe pré-socratique.
Absolument. Alors lui, il avançait un argument, notamment pour le végétarisme. C'était la métempsychose dont vous parliez à l'instant.
La réincarnation.
Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut pas être végétarien. Ce qui est une raison qui sera plus forcément celle qui sera avancée un petit peu plus tard, quelques siècles plus tard, par des philosophes grecs comme Plutarque, par exemple, qui, eux, vont surtout considérer le rapport que nous devons avoir aux animaux, de respect, et surtout, eux vont pointer le fait, Plutarque, celui vraiment qui va, le premier, pointer le fait que ça n'est pas naturel, contrairement à ce que plein de gens disent, de manger de la viande, pour une bonne et simple raison, c'est que, dit-il, si vraiment nous étions faits pour manger de la viande, alors nous serions capables de tuer nous-mêmes l'animal. D'abord, c'est la première chose qu'il dit, si vraiment tu es fait pour manger de la viande, ne demande pas à quelqu'un d'autre de tuer l'animal pour toi, mais en plus fais-le toi-même avec tes propres mains, à main nue.
Parce que il y a tout un courant actuellement, New Age, c'est New Age aux États-Unis qui va dans ce sens, c'est Zuckerberg notamment.
Alors Zuckerberg, effectivement, fondateur de Facebook, avait décidé en 2011 c'était un des défis, mais alors il faut savoir que Zuckerberg...
D'abattre lui-même sa viande.
Oui, mais chaque année, lui, il se fixe des défis. Et il se trouve que c'était en 2011, c'était son défi de l'année, c'était de dire « je ne mangerai plus que les animaux que j'ai moi-même tués ». Donc il avait pris des cours de chasse pour savoir comment tuer des animaux. Mais ce dont on a moins parlé, c'est qu'un an après, il a renoncé à ce projet et qu'il a recommencé à manger des animaux tués par d'autres personnes.
Si tu veux t'obstiner à soutenir que la nature t'a fait pour manger telle viande, tue-la donc toi-même le premier. Je dis toi-même sans user de couperet, ni de couteau, ni de cognier, mais comme font les loups, les ours et les lions, qui à mesure qu'ils mangent, tuent la bête aussi. Toi, tue-moi un bœuf à force de le mordre à belles dents ou de la bouche un sanglier, déchire-moi un agneau ou un lièvre à belles griffes et mange-le encore tout vif, ainsi que font ces bêtes-là. Ça, c'est Plutarque.
Oui, Plutarque était sans doute le premier, lui, à vraiment formaliser le fait également que c'est un acte de barbarie pour lui que d'aller tuer un être vivant et sensible, qui est une idée qui disparaîtra ensuite de la pensée occidentale à cause notamment, bien évidemment, des religions monothéistes qui vont instaurer très clairement un rapport de hiérarchie entre l'homme et les animaux, puisque la Bible dit très clairement dans la Genèse dès le début que les animaux sont là pour être à notre service, qu'il faut régner sur les animaux avec terreur, avec effroi. Donc évidemment, ça va déterminer ensuite deux millénaires de souffrance pour les animaux.
Claude va dans votre sens. Les savants et philosophes illustres de l'histoire qui prônaient le végétarisme avaient raison. Le carnivorisme nous maintient dans l'animalité. Alors là, on arrive un peu dans le point de vue...
parce que nous maintenir dans l'animalité, si je peux me permettre de rebondir, ça n'est pas gênant. Puisque nous sommes des animaux. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses aujourd'hui qui doivent complètement alimenter notre réflexion. C'est-à-dire que tout ça est lié. C'est qu'en réalité, c'est parce que nous avons justement nié très fortement notre animalité que nous nous sommes permis pendant des siècles de maltraiter fortement les autres animaux. Je dis bien les autres animaux. Dans le livre, j'aime employer ce terme d'animaux et d'animaux non humains. de faire le distinguo. Et c'est justement parce qu'aujourd'hui, on commence enfin, avec notamment les progrès de la science, etc., on commence enfin à assumer un petit peu plus notre statut d'animal, même depuis Darwin. Voilà, Darwin a énoncé un certain nombre de choses, mais qui ont mis du temps, néanmoins, à être vraiment comprises par la société. Et c'est justement parce que nous sommes des animaux que nous devons avoir une attitude particulière vis-à-vis de nos congénères.
Nos steaks d'Émeric Caron, c'est édité chez Fayard. Alors, dans un instant, nous allons voir quelle a été l'histoire des végétariens à travers les âges, parce qu'il y en a eu beaucoup de ces végétariens, et c'était souvent des figures extrêmement brillantes.
Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de la préhistorienne Marilène Patou-Mathis, et du journaliste Émeric Caron. On s'intéresse aux carnivores, aux végétariens, et c'est un sujet qui vous fait vivement réagir sur les réseaux sociaux.
Oui, il y a énormément de réactions, je ne peux pas toutes les lire. Il y a des compliments, Marilène Patou-Mathis. Merci à votre invité, nous dit Karine, pour son vrai féminisme. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait, vous savez, c'est-à-dire basé non pas sur des non a priori, dit-elle. C'est très juste. Étant chasseur, précise Alexandre, je peux vous assurer que les rituels liés à la chasse subsistent toujours. On peut y observer un certain syncrétisme entre le christianisme et le paganisme, notamment pour ce qui est de l'initiation du jeune chasseur. C'est sans doute vrai dans certains types de chasse et dans certaines régions. Enguerrand nous dit quel sujet intéressant, mais que disent les grands mythes des civilisations antiques? Pour ce qui est de la Genèse, l'homme serait devenu carnivore après le déluge. On peut aller creuser dans les mythes. Hein.
Adam et Ève étaient végétariens. C'est un sujet extrêmement important qui vaut quasiment une émission. Parce que
oui,
ça,
bien sûr.
Ça, c'est vraiment. C'est fort intéressant aussi de voir la différence entre l'Occident et l'Orient, là, une fois de plus. Et aussi entre des peuples chasseurs-cueilleurs ou horticulteurs traditionnels et puis les peuples, entre guillemets, que je déteste ce mot, dissivilisés. Et là, il y a vraiment des choses complètement contradictoires. Mais sur les réactions, je voudrais dire quand même quelque chose. Deux secondes importantes. Si vous voulez, moi, ce qu'on essaye de faire, préhistorien anthropologue, c'est de montrer comment tout ça s'est mis en place dans notre évolution en tant que, d'abord, d'humanisation et aussi d'humanisation. Et je voudrais faire un point qui est capital, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on a été comme ça, qu'on doit le rester. Mais inversement, c'est peut-être aussi parce qu'on a été comme ça qu'on peut aller vers autre chose. Donc je crois que là, il faut faire très attention et ne pas se tromper de débat. C'est pas parce que ça a été un moment, je pense que c'est vraiment important pour nous, qu'il faut le rejeter. Parce que, et il est clair aussi que je ne suis pas que ça ne veut pas dire qu'on doit continuer à manger de la viande. C'est un autre sujet, c'est un autre problème.
Ce qui est intéressant dans un sujet comme celui-ci, et si les réactions sont aussi nombreuses, c'est parce qu'évidemment, je pense que ça touche par définition tout le monde d'une façon ou d'une autre, c'est que ça relève tout ça de l'intime conviction, en tout cas de la conscience intime de chacun. Le prosélytisme dans ces matières, qu'il soit favorable à la viande ou favorable au végétarisme, me paraît un peu déplacé. C'est à chacun de sentir sa propre position sur la question. En fait, écrivez-vous, Marilène Patou-Mathis, en fait, conscient de l'existence d'une consubstantialité entre lui et l'animal, c'est ce qui nous ramène tout à l'heure à ce que disait Émeric Caron sur le fait que nous étions, après tout, des animaux. Conscient de cette consubstantialité, comme l'a suggéré le psychiatre et anthropologue Philippe Breneau, la plus grande peur ou honte de l'homme ne serait-elle pas celle de ses origines animales? Et pour la vaincre, il tente d'enfouir au plus profond de lui ce fond animal, sorte de péché originel, en se cultivant pour ainsi s'extraire de la nature. C'est peut-être la question fondamentale qui est posée dans cette affaire. Alors, Émeric Caron, vous nous faites une sorte... Alors, c'est assez paradoxal, parce que toute la partie historique se trouve à la fin de votre livre. D'ailleurs, ça change, parce que d'habitude, les livres commencent toujours par la chronologie, l'histoire. Vous faites plutôt...
Pas toujours.
Une fois qu'on a fait le panorama complet de la question, et vous êtes alors d'une sévérité très grande sur tout ce qui est pratique, on va dire comment, commerciale et industrielle de la viande, etc.
Ah non, je ne suis absolument pas d'une sévérité... comment dirais-je, exagéré, je me contente de dresser un constat. C'est-à-dire qu'effectivement, je décris les élevages industriels aujourd'hui qui sont absolument terribles, qui ont complètement réifié l'animal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on produit des animaux à la chaîne sans aucune espèce de considération pour leur capacité à ressentir la souffrance, la douleur, l'angoisse, etc. Donc, il n'y a absolument de ma part aucune exagération.
Quand je dis sévérité, oui, vous êtes en tout cas très... vous décrivez crûment des réalités.
Voilà, ça, non, j'ai même été très soft. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui me parlent de mon livre, qui disent « Oh là, il y a des passages durs !» Et la réalité que je décris, moi, j'ai vraiment décrit le minimum pour permettre au lecteur de comprendre la réalité. Parce que cette réalité est absolument terrible, elle est horrible. C'est pas pour rien qu'elle nous est constamment cachée. C'est pas pour rien que les abattoirs aujourd'hui sont éloignés de notre...
Dissimulés
de notre vue, parce que la plupart des gens qui mangent de la viande ne veulent pas savoir comment cette viande a été produite. Quelle est vraiment la vie qu'a vécu l'animal qu'on est en train de manger. Parce que beaucoup de gens me le disent. J'ai parlé à tellement de gens quand j'ai écrit ce livre, m'ont dit, mais de toute façon, c'est vrai que si je pense réellement à la vie d'animal, j'arrête. Je mange pas. Donc voilà, je me contente simplement d'essayer de mettre les points sur les i.
Et puis à la fin de l'ouvrage, alors, vous nous racontez quelle est la généalogie, en quelque sorte, des végétariens. Il y a de très grands noms qui apparaissent.
Oui, alors c'est très... Là encore, il faut se méfier de certaines légendes urbaines. C'est-à-dire que quand on traîne sur les sites internet qui parlent du végétarisme, on va trouver des grands noms comme Einstein, Léonard de Vinci, etc. Et d'après les recherches que j'ai faites, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Par exemple, Einstein était très tenté, intéressé par le végétarisme. Sa sœur était végétarienne, mais lui-même a mangé, en fait, a arrêté vers la fin de sa vie de manger un peu de viande, etc. Mais c'était pas un vrai végétarien. Léonard de Vinci, c'est beaucoup plus compliqué, etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés.
Léonard de Vinci pose la question à plusieurs reprises, clairement.
Oui, mais sauf que le problème de Léonard de Vinci, c'est qu'il y a des textes, on sait même pas si c'est vraiment lui, etc. Donc c'est très compliqué. Mais on constate, en tout cas, que, en effet, il y a des gens comme Rousseau, par exemple. Rousseau était végétarien. Il y a tout un courant de pensée dans la littérature, philosophie occidentale, qui s'est intéressé depuis longtemps aux droits des animaux, donc qui peut conduire en effet à se poser la question de la légitimité de les manger ou pas. Montaigne, par exemple, quelqu'un comme Victor Hugo, par exemple, n'était pas lui-même végétarien, mais il était président d'honneur de la société contre la vivisection. Donc, je cite l'exemple aussi de Louise Michel, par exemple, qu'on connaît bien évidemment pour son rôle dans La Commune, mais qui explique que son combat pour les déshérités, les plus pauvres, les ouvriers, est lié à un amour fondamental des animaux et des bêtes. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est qu'on constate que nous, on n'a pas retenu ces discours-là de tous ces gens qui sont connus pour plein de choses. On a absolument écarté, oublié, annihilé tout le discours qu'ils ont essayé de nous transmettre sur le respect que nous devons avoir vis-à-vis des animaux.
Tolstoï également.
Tolstoï, fondamental, absolument. Tolstoï, il n'est pas non plus... Voilà, c'est pas pour ça qu'on a retenu son nom. Et ça a été sans doute effectivement l'un des premiers à s'interroger. Il était très influencé par les philosophies orientales, par le bouddhisme, etc. Et lui-même a influencé Gandhi. Il avait cette notion très, très présente chez lui du fait qu'on doit respecter tout être vivant, sensible, quel qu'il soit.
Vous citez un passage de l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Une des preuves que le goût de la viande n'est pas naturel à l'homme est l'indifférence que les enfants ont pour ce mets-là et la préférence qu'ils donnent tous à des nourritures végétales telles que le laitage, la pâtisserie, les fruits, etc. Il importe surtout de ne pas dénaturer ce goût primitif et de ne point rendre les enfants carnassiers. Si ce n'est pour leur santé, c'est pour leur caractère. Car de quelque manière qu'on explique l'expérience, il est certain que les grands mangeurs de viande sont en général cruels et plus féroces que les autres hommes. Cette observation est de tous les lieux et de tous les temps. Alors évidemment, cela suscite quelques grimaces sur ma gauche.
Mais là encore, il reprend par là des théories qu'on peut trouver chez des philosophes grecs qui considéraient qu'en effet, manger de la viande, ça augmenter le taux d'agressivité chez
l'être humain. Sanguin, on dit le terme sanguin, être sanguin. Ouais.
En tout cas, il y a chez Jean-Jacques Rousseau toujours cette capacité à faire passer pour des vérités absolument générales et parfaitement établies, ce qui relève quand même de sa conviction.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Une vache à 1000 francs, comme ce serait charmant. Comme ce serait charmant et beaucoup plus tentant qu'une vache à 2000 francs, une vache à 1000 francs, une vache à 1000 francs. Ferait le filet à 100 francs, le rhum steak à 60 francs, le gîte à 40 francs, la loyau à 30 francs, la culotte à 20 francs, une culotte à 20 francs. Ferait la côte à 15 francs, la poitrine à 12 francs, la bavette à 10 francs, le collier à 8 francs, le jarret à 4 francs, un jarret à 4 francs. Ce serait intéressant. Et plus avantageux pour faire un pot-au-feu qu'un jarret à 1000 francs, un jarret à 4 francs.
La vache à 1000 francs sur Europe 1, parodie de la vache à 1000 temps, évidemment. Jean Poiret, d'autres réactions?
Non, merveilleux Jean Poiret. Oui, alors des réactions qui n'arrêtent pas. Je ne peux vraiment pas toutes les citer, mais certaines sont particulièrement intéressantes. Amaury nous fait remarquer, puisque nous avons tout à l'heure rangé le christianisme définitivement dans la religion, dans le camp carnivore, et nous, le christianisme a quelques exemples de saints végétariens comme saint François d'Assise qui ne mangeait ni ne tuait aucun animal.
C'était un peu l'exception, lui.
Oui, quand même.
Quel impact sur l'environnement, le fait de manger de la viande, élevage, la nourriture animale, etc. Alors tout ça, c'est le sujet, c'est le cœur même de l'enquête d'Émeric Caron, ça évidemment. Nos steaks, hein, encore une fois. Mais ce n'est pas le sujet de cette émission. Donc je renvoie François, en l'occurrence, à l'ouvrage lui-même, puisque nous parlons plutôt d'histoire aujourd'hui. Je suis végétarien, nous dit Julien, depuis des années, et je fais des tests sanguins de temps en temps. Je ne manque de rien, ni de protéines, ni de fer. Bon, ça c'est pour régler la question des carences éventuelles. Et puis alors, question fondamentale, mais que nous n'aurons sûrement pas le temps de creuser ensemble. Alexandre nous dit, le végétarisme ne serait-il pas symptomatique d'un éloignement entre l'homme et la mort dans nos sociétés contemporaines? Alors ça, c'est là, on arrive dans la haute philosophie, mais c'est peut-être une question qu'on peut se poser, Émeric Caron.
C'est curieux, j'ai jamais entendu cette question. Non, je pense que c'est pas du tout un éloignement de la mort, parce que quand on mange aujourd'hui de la viande dans les systèmes tels qu'ils sont aujourd'hui, au contraire, c'est à ce moment-là qu'on éloigne la mort. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que la viande que l'on mange, on le disait, on prenait l'exemple des abattoirs tout à l'heure, la viande que l'on mange est complètement déconnectée du processus de mort. C'est-à-dire qu'en gros, ces animaux n'existent pas en tant que tels. Enfin voilà, on nie complètement tout le processus. Le végétarisme, c'est pas ça du tout, me semble-t-il en tout cas. C'est beaucoup plus une philosophie de pensée qui cherche à apprendre le respect du vivant sensible et intelligent, quel qu'il soit. Et selon moi, c'est une manière d'évoluer en tant qu'être humain dans notre humanité, justement, en ayant conscience du tort ou du mal que l'on peut faire à d'autres êtres vivants. Et je pense que c'est au contraire. C'est une philosophie très positive, qui n'est pas contre, c'est pas une philosophie négative pour fuir, par exemple, la mort, mais c'est une philosophie très positive pour essayer d'être de meilleurs humains.
Vous aviez l'air tout à fait d'accord, Marlène Patoumatis, à propos des souffrances animales. C'est un phénomène, alors j'allais dire relativement récent, on a sans doute toujours fait souffrir les animaux pour les tuer, mais c'est devenu systématique, industriel, on pourrait dire automatique depuis peu de temps, depuis un peu plus d'un siècle
oui,
seulement.
Oui, mais je voudrais justement, enfin, vous allez dire, je suis obsédée avec mes sociétés traditionnelles et anciennes, mais honnêtement, ce n'est pas du tout la même chose. Enfin, moi, j'ai eu la chance de vivre au Kalahari avec les Bushmen pendant 3 mois, il y a plusieurs années, et franchement, c'est nous qui avons un rapport, enfin, c'est nous, c'est notre, dans notre histoire d'occidental, et peut-être dans d'autres régions du monde, maintenant on voit que la Chine et tout ça, mais franchement, c'est parce que ça a changé. Le rapport animal, avant, il n'y avait pas justement cette souffrance, parce qu'il n'y avait pas cette infériorisation, excusez-moi, qui s'est mise en place avec des classifications, avec tout ça, avec les religions. C'est ça qui est important, c'est que l'animal n'était pas considéré comme inférieur, il était considéré comme un semblant, comme un frère dans ces sociétés. Donc évidemment, le rapport est tout autre. Comment tuer son semblable? Eh ben, il faut faire des rituels très sophistiqués pour essayer de trouver des explications. Et donc, je crois que c'est ça qui a fait que maintenant, enfin, au cours de notre histoire, voilà, après, l'animal, comme il est inférieur, vous savez, on a fait ça avec des êtres humains aussi, malheureusement.
En fait, hein.
Exactement. Donc, on pouvait le tuer, tout. En plus, il y a eu, voilà, le syndrome de l'animal machine, il y a eu tout ça. Donc, de toute façon, il était plus nous, il était très, très éloigné, on pouvait le tuer.
Il faut quand même
quoi,
aussi citer
et le faire souffrir.
Les sociétés qui, depuis des millénaires, ont choisi de ne pas tuer d'animaux. Je parle du jaïnisme dans le livre, donc on est en Inde, c'est une philosophie qui date de plusieurs millénaires, hein, 6-7 000 ans je crois d'ici, où voilà, on a quand même des gens qui d'emblée nous disent on n'a absolument pas à commettre cet acte barbare. Il y a quand même 40% de végétariens en Inde, donc il faut bien voir aussi qu'il ne faut pas voir que le modèle occidental est le modèle généralisé, c'est une erreur qu'on pourrait faire très facilement.
Alors cette émission ne s'appelle pas Au cœur de l'avenir, mais tout de même, vous pensez, vous, Émeric Caron, qu'on s'achemine vers des sociétés qui mangeront de moins en moins de viande?
De toute façon, ça, c'est inéluctable. C'est-à-dire qu'on va être obligé de baisser notre consommation de viande, je l'explique dans le livre, pour des raisons environnementales, des raisons économiques, puisque de toute façon, la planète est trop petite, je vais faire très très court, hein. La planète est trop petite de toute façon pour continuer à avoir ces élevages industriels pour nourrir une population qui ne cesse de grandir. Il faut quand même savoir qu'on est 7 milliards aujourd'hui, on sera 10, 15 milliards en 2100, et on se souvient peut-être pas qu'il y a seulement 5 siècles, nous étions sur Terre 500 millions.
Eh oui.
Donc voilà, il y a un truc qui va pas. Cette prédiction. Donc, de toute façon, on va baisser notre consommation de viande. Maintenant, le fait qu'on va complètement arrêter de manger de la viande, c'est effectivement ce que j'explique dans le livre. Cette prédiction a été faite par Claude Lévi-Strauss lui-même, qui dit, vers la fin de sa vie, qui dit qu'un jour, on regardera dans notre histoire l'époque où on mettait comme ça des cadavres d'animaux dans les vitrines. On regardera ce moment de notre histoire comme un moment vraiment de barbarie. Donc, et je pense effectivement qu'on va arriver vers un arrêt définitif de la viande, tout simplement pour des raisons éthiques et morales. Il faut savoir qu'il y a un mouvement philosophique politique de réflexion sur la question qui a commencé il y a une trentaine d'années, qui est de plus en plus puissant, qui pour l'instant est très présent dans les pays anglophones, mais qui va toucher peu à peu d'autres pays.
Un auditeur sans doute très ironique nous fait remarquer que dans la liste des végétariens, nous avions oublié Hitler, mais nous avons aussi oublié Marguerite Yourcenar, Paul McCartney, Clinton.
Alors, correction, c'est une erreur.
C'est une légende.
C'est une légende. Effectivement, Hitler n'était pas végétarien. Il a simplement dû, à un certain moment de sa vie, arrêter de manger de la viande pour des raisons médicales, parce qu'il avait des problèmes d'estomac, mais ce n'est absolument pas lié à une philosophie du végétarisme.
Nos steaks d'Emeric Caron, c'est édité chez Fayard, et Marilyn Patou-Matisse a publié Mangeur de viande, de la préhistoire à nos jours chez Perrin. Merci beaucoup à tous les deux, je crois vraiment que c'était passionnant.